je vous proposerai maintenant d'ouvrir un petit débat autour de ce problème qui n'a fait qu'être effleuré, dirais-je, c'est-à-dire si l'on peut parler d'un essor de l'éducation bilingue et plurilingue par des techniques que je considère des techniques d'appoint, celles qui ont été présentées par Virginie Borel et par Alice Thomas, c'est-à-dire tandem et multigramme. J'aurai une question ou deux à chacun des intervenants, mais pour l'instant, j'attends vos remarques ou questions, s'il vous plaît, monsieur.
Bonjour. Je voudrais m'adresser au monsieur qui nous a présenté son exposé sur les calendrettes. Donc l'expérience calendrette est maintenant bien connue en France puisque ça fait 40 ans. L'expérience calendrette peut être étudiée aussi à côté de l'exemple d'Iwan que je connais particulièrement bien. Donc le résultat de cette méthode d'enseignement est très bonne. C'est-à-dire que, pour vous dire, les résultats au bac pour D1, c'est pratiquement 100% de réussite au bac depuis de nombreuses années. Donc, il n'y a aucun obstacle à l'apprentissage de deux langues. Ça, c'est acquis, c'est connu. Par contre, il y a quelques problèmes. Alors, dans le cas de la calendrette, je pense que ce problème peut être dépassé facilement, parce que comme c'est une langue latine, l'enseignement des disciplines scientifiques dures en occitan ne pose aucun problème. Je fais appel à notre amie italienne qui nous a fait une conférence en italien. Jamais appris l'italien, j'ai compris tout ce qu'elle a dit. Donc, pour les langues latines, il n'y a pas de problème. Par contre, il se pose le problème quand les gens ont une vision idéologique de leur langue. Je m'explique. En Bretagne, il y a des bretonnants qui ont voulu absolument bretonniser les sciences dures. Et ils se sont penchés en particulier sur les mathématiques. Il se trouve que j'ai un ami bretonnant qui est professeur de mathématiques à l'université de Brest, qui a fait un travail fantastique, et il s'est insurgé contre les méthodes qui étaient employées, parce que c'était des gens qui ne connaissaient pas les mathématiques, qui ont voulu bretonniser le vocabulaire mathématique. Donc vous connaissez le drame qu'il y a eu en Algérie quand ils ont voulu arabiser l'enseignement des sciences dures. Il y avait des gens qui ne connaissaient pas les sciences dures et qui connaissaient l'arabe. Et ceux qui connaissaient l'arabe, ils ne connaissaient pas les sciences dures. Donc ils sont allés dans le mur, ils payent encore le prix. Donc il faut être bien prudent que pour certaines langues qui sont loin des racines latines, il ne faut pas jouer avec le vocabulaire scientifique. Mais mis à part ça, il n'y a aucun problème d'enseignement et je pense que c'est très... Et en plus, il y a un point très positif qui n'a pas été relevé, c'est que dans les classes des calendrettes où il y a la chance d'avoir quelques élèves qui sont d'origine émigrée, c'est un facteur d'intégration exceptionnel. Je veux dire que là, ça a toutes les qualités de ce côté-là. Mais sous réserve, qu'on ne fasse pas d'idéologie. Hein? Je prends l'exemple de la Hongrie. Quand ils sont passés de l'allemand pour l'enseignement supérieur au hongrois, ils ont germanisé tous les mots vocabulaires. Ils ont très peu utilisé les mots hongrois. Ils n'ont pas cherché à faire des mots hongrois tordus. C'est mes amis hongrois qui me l'ont dit. Et ils avaient étudié en allemand et ils se sont collés à l'allemand. Il ne faut pas essayer de faire dire à une langue ce qu'elle ne peut pas dire. C'est très complexe.
Permettez, je crois que vous allez un peu trop loin, je ne sais pas, donc il faudrait entendre les terminologues hongrois pour voir un peu comment ça se passe dans les différentes terminologies. Mais quant à l'occitan et en général aux langues minoritaires, La question que je me pose, c'est si ces langues sont assez développées du point de vue des terminologies des sciences exactes ou de certaines terminologies. Donc, d'une part, et d'autre part, la question que je vous pose, vous, en tant qu'enseignant dans cette école, vous disiez, je crois, dans votre résumé, que les parents des élèves ne connaissent pas l'occitan, que les élèves sont là à apprendre l'occitan. Est-ce qu'ils ont une certaine conscience identitaire ou bien pourquoi apprennent-ils l'occitan? Donc pourquoi on leur fait apprendre l'occitan? C'est bien sûr un enrichissement d'apprendre une nouvelle langue, mais pourquoi l'occitan et s'ils se sentent vraiment occitans? Donc, ça, c'est une question que je pose. Donc, s'il y a encore pour d'autres personnes des questions ou des remarques, et puis je passe la parole aux intervenants. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur.
Ce n'est pas qu'une question de langue, c'est aussi une question de culture. Tout le monde connaît Kazatsu, le chef, le chef d'orchestre, et son orchestre, aujourd'hui l'orchestre national de Lille. Quand je suis arrivé dans le Nord en 1976, c'était encore l'orchestre philharmonique de Lille. Il était juste arrivé, il venait d'arriver, et il avait décidé de jouer avec son grand orchestre philharmonique dans les usines. Et il est donc allé travailler ou jouer, performer sur le temps de travail dans des usines de la sidérurgie. Et ensuite, on a demandé aux ouvriers qu'est-ce qu'ils en pensaient. Ils étaient très enthousiastes, un, parce que ça leur donnait 2 heures de repos, et deux, parce que la musique, les intéressait. Parce qu'on est dans le nord, Pas-de-Calais, la zone Picarde, et il n'y a pas un village qui n'a pas une fanfare. Si bien quand on leur demandait, alors Kazatsu, qu'est-ce que vous avez là? Ils répondaient, ah oui, la grande fanfare de Lille. Et ils avaient intégré leur culture des fanfares de village dans ce qu'ils avaient reçu à l'usine. Et c'est le problème des langues régionales. C'est que c'est aussi une culture, et il faut prendre en dimension cette culture, et effectivement... qu'ils prennent un orchestre philharmonique comme étant une grande fanfare, pour eux, c'est un terrible compliment. Parce que dans leur culture, la fanfare, c'est leur vie quotidienne.
Alors, si vous avez d'autres remarques...
Je veux dire que pour nous, moi je suis occitan aussi, c'est une question de racines culturelles. Faire en sorte que les jeunes générations ne perdent pas le souvenir de ce que leurs ancêtres ont été. Il ne s'agit pas d'enseigner ni les mathématiques ni autre chose. Il s'agit de faire un lien avec la culture d'où on vient. Et vous savez comme moi que les jeunes générations, avec les nouvelles technologies, ont complètement perdu le contact avec leurs origines, celles de leurs parents, de leurs grands-parents et arrière-grands-parents.
Ça paraît vraiment très intéressant, mais le problème est, est-ce que ces élèves en occitan arrivent à un niveau assez élevé pour pouvoir... discuter ou bien approfondir la culture occitane grâce à la langue et dans la langue, ce serait une question.
Oui, après, d'un point de vue objectif, je pense que les parents mettent leur enfant en calendrier, donc comme le disait monsieur, pour justement perpétuer cette culture. Et dans le langage de tous les jours aussi, il y a énormément d'expressions françaises enfin, qu'ils utilisent, qui viennent de l'occitan. Sans le savoir, il l'utilise sans vraiment connaître. En revanche, après, je pense que mettre son enfant en calendrette permet aussi donc l'ouverture vraiment linguistique. Après, de là à avoir des terminologies aussi développées dans la langue occitane pour les sciences, etc., ça, je suis un peu plus sceptique. Voilà. Mais après, c'est une réelle ouverture, en revanche, pour tout ce qui qui est langue romane, ça c'est certain. Voilà ce que je peux dire. Voilà.
J'aurais une question à notre collègue de Fribourg. Donc, vous disiez, et je suis d'accord avec vous, qu'il ne suffit pas de parler une langue pour savoir l'enseigner. Oui, mais dans le cas de vos étudiants, vous faites séparément, donc il y a des cours de langue, d'après ce que j'ai compris, ou dans les deux langues, et vous faites aussi des cours de didactique des langues, de formation théorique et de pratique dans l'enseignement.
Alors, à ce niveau-là, en fait, les choses sont très cloisonnées. Vous entendez ? Comme ça, vous entendez ? C'est bon ? Oui. Au niveau de la formation, les choses sont très cloisonnées. C'est-à-dire que dans la plupart des instituts de formation des maîtres, que ce soit à l'université ou que ce soit les reliquats d'écoles normales, des hautes écoles pédagogiques, les enseignants sont formés pour enseigner peut-être deux, voire trois disciplines. Ils peuvent choisir, en l'occurrence à Fribourg, pour enseigner au niveau collège ou lycée, ils choisissent par exemple l'allemand, l'informatique et la gymnastique. Hein, c'est tout à fait possible. Et donc, ils ont des cours didactiques d'allemand, des cours didactiques de gymnastique, hein, etc. Ils peuvent suivre ces cours, s'ils font une formation bilingue, soit en français, soit en allemand. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'outils pour enseigner la gymnastique dans la langue partenaire. Alors peut-être que si c'est un étudiant qui a fait allemand, informatique, gymnastique, il a les outils linguistiques au niveau de la terminologie pour enseigner la gymnastique, mais pas pour enseigner la gymnastique à des élèves qui n'ont quasiment pas de notion d'allemand ou très peu d'allemand, en tout cas pas en gymnastique. Je prends l'exemple de la gymnastique parce que c'est justement la première branche à laquelle on pense, la première discipline, en disant ah, on va faire une filière bilingue, on va faire les cours de gymnastique en allemand. Et en fait, c'est extrêmement difficile d'enseigner la gymnastique parce qu'il y a l'aspect sécurité, il y a l'aspect discipline, il faut tenir ses élèves dans une salle où l'acoustique n'est pas bonne, etc. Et il y a tout un vocabulaire que les élèves ne connaissent pas parce qu'ils ne l'ont pas appris forcément. Donc, cheval d'arçon, en allemand, ils ne vont pas comprendre. Même un jeté, un javelot, ça, ils ne vont pas comprendre. Donc, voilà, c'est toute une technique. Et au niveau politique, on ne fait pas attention à ça. Par contre, les étudiants que j'ai en formation ou des jeunes collègues dont j'ai un retour me disent « Mais c'est juste pas possible d'enseigner la gymnastique en allemand, par exemple. On ne sait pas comment faire, les élèves ne comprennent rien, et puis comment je m'y prends ?» Et donc, pour revenir à votre question, on a effectivement un manque à ce niveau-là dans la formation des enseignants pour les outiller tout simplement à enseigner dans une langue partenaire à des élèves qui sont ici allophones ou en devenir bilingues.
Une nouvelle question à notre collègue Alice Thomas. Je n'ai pas très bien compris s'il s'agit d'un outil d'enseignement et apprentissage ou d'un outil d'apprentissage, d'une part. D'autre part, je n'ai pas très bien compris s'il y a un cloisonnement entre les différents types de volets dont elle a parlé, parce qu'actuellement, on ne peut pas plus parler en didactique de volet grammatical, volet lexical et volet communicationnel. Je ne vois pas très bien comment est conçu le mécanisme respectif, tout comme je ne vois pas comment on fait pour que les étudiants respectifs aborde ou non une seule langue à la fois ou plusieurs langues à la fois, parce que si ça s'appelle multilingue, ça veut dire plusieurs langues, mais est-ce que la même personne apprend plusieurs langues par ce cet outil ou bien se séparer ou non.
Je vais essayer de répondre à ces questions. La première question, s'il s'agit d'un outil pour l'enseignement ou l'apprentissage, c'est en fait un outil et pour l'enseignement et pour l'apprentissage. Pour l'enseignement, parce que le professeur peut utiliser cet outil pendant les classes. Et pour l'apprentissage, au moins de mon point de vue, je le vois un peu comme ça, parce que c'est un outil qui donne accès aussi à l'auto-formation, ce qu'on disait tout à l'heure à la table ronde précédente, quand on avait dit que l'auto-formation, l'intérêt, l'auto-intérêt pour apprendre une langue est très important. En ce qui concerne les volets que j'avais précisés, effectivement, je n'ai pas eu le temps de développer. Par exemple, quand je dis qu'on peut voyager, disons, d'un volet à l'autre, la multigramme permet à l'étudiant, par exemple, de s'informer sur l'impératif. Donc, il veut tout simplement s'intéresser, il va tout simplement s'intéresser à l'impératif, mais une fois qu'il s'intéresse à l'impératif, il va tout de suite être mis en contact avec le conseil, l'ordre, l'instruction. Donc c'est partir, enfin c'est l'interface directe grammaire-communication. Et le principe qui compose à la base de cette interface, c'est en fait le fait qu'on parle de l'idée que les compétences sont des universalia, disons, qui permet l'approche transversale, des universalia beaucoup plus fortes, si on peut parler en termes de puissance, par rapport aux universalia de la grammaire. On a aussi dans la grammaire des choses qui traversent les typologies, dans la typologie des langues, mais quand on parle du volet communicationnel, alors on est sûr et certain que dans ce cas, on peut parler des universaliers. Et bon, on arrive alors à la un aspect que je n'ai pas du tout évoqué, la culture. Est-il possible? Ou est-ce que la question se pose, est-ce qu'il y a des spécificités culturelles quand on apprend des langues? Bien évidemment, à mon avis, il y en a, mais il y en a aussi les aspects universels. Si je pourrais un peu, disons, condenser, l'altérité, elle est définie par rapport à l'identité et vice-versa. On a une identité justement parce qu'on est en rapport avec l'altérité. Et donc, culturel, universel, les principes de communication peuvent très bien surgir et vivre ensemble dans le principe didactique. Et pour arriver à la dernière question, une langue ou plusieurs langues, j'avoue à cette question, c'était peut-être ma collègue Sabina Agola qui aurait pu mieux répondre. Et les professeurs d'italien, donc je prends son cas particulier, professeurs d'italien dans l'Université libre de Bruxelles, donc l'université dans laquelle la langue d'enseignement est le français. Et dans la plupart des cas, c'est aussi la langue maternelle des étudiants. Le fait que l'interface, le métalangage de multigramme et le français constitue, à mon avis, un pont qui unit et qui permet la comparaison de toutes les langues qui sont incluses dans la plateforme. Donc, il y a déjà l'aspect métalangage qui est qui est, disons, ici, ainsi éclairé. On parlait tout à l'heure, est-ce qu'on peut de l'Occitane, et est-ce que l'Occitane a la capacité de développer un appareil conceptuel. Dans le cas de Multigramme, on a le français, on est clair, on est sûr et certain, on a l'appareil conceptuel duquel on a besoin pour étudier les langues. Et effectivement, les étudiants qui utilisent cette plateforme, ils sont encouragés à apprendre plusieurs langues en parallèle. Donc, ils ont la langue, dans la plupart des cas, la langue maternelle, la langue française. Ils commencent à étudier l'italien et ils peuvent rajouter, c'est d'ailleurs dans la filière des langues romanes que la langue roumaine est prévue dans le programme des études à l'Université libre de Bruxelles. Ils ont la possibilité de rajouter une troisième langue romane, par exemple, donc français, italien, roumain. Donc, l'objectif de la plateforme est vraiment de permettre les liens, les modalités dans lesquelles les informations sont mises en relation sont vraiment faites pour que les étudiants soient encouragés de passer facilement d'une langue à l'autre.
Alors, dans ce cas, on fait un mélange entre tandem et ce qui a immersion dans une langue, et emploi d'un métalangage qui, quelquefois, met des barrières et des obstacles dans l'enseignement de la langue. Moi, ce n'est pas la question que je me pose, mais c'est une question rhétorique. C'est que tous ces outils représentent en fait des techniques d'appoint d'enseignement-apprentissage, ça ne pourrait pas vraiment être, c'est peut-être parallèlement à une stratégie, ça dépend bien sûr des contextes, donc s'il s'agit de jeunes enfants, ça peut être vraiment une technique d'apprentissage, mais pour un certain âge, un cours de langue plus ou moins moderne ne pourrait pas être remplacé par de tels outils, j'en ai bien l'impression. Et la dernière question donc, qui pourrait se poser et que je me pose en tant que, disons, théoricien aussi de la didactique, c'est si vraiment tous ces portfolios et tout ce qui s'est fait depuis les années 70 jusqu'à maintenant, du point de vue du Conseil de l'Europe, ainsi de suite, représente vraiment un progrès du côté du niveau de connaissance des langues étrangères. Parce que malheureusement, je parle de mon expérience d'enseignante de français, je vois bien qu'en changeant de stratégie, en changeant de corpus, ainsi de suite, n'en parlons plus, les résultats sont plutôt décevants. Les résultats du niveau de connaissance d'une langue étrangère avec les roumanophones. Donc, la question est si nous, en tant que théoriciens et praticiens, nous sommes vraiment en train de faire de progrès entre les outils théoriques bien encadrés et la pratique de la classe et ce qui se passe après. Parce que malheureusement, les étudiants que l'on a ne sont pas très avancés en connaissance d'une langue étrangère ou de plusieurs. Quel est ton avis ?
Votre question mène à des choses vraiment profondes. Et je dois reconnaître le fait que un véritable débat pourrait commencer à partir de ce moment. Mais mon avis est que c'est ce type de document offre, disons, un point de départ et de toute façon un cadre de référence et on a encore besoin d'un tel cadre. Cependant, c'est à nous, les enseignants, les, disons, conseillers expérimentés, d'ajouter ce que notre propre activité et ce que les années nous ont apporté de bons résultats en ce qui concerne la formation pour que le développement professionnel devienne vraiment un développement professionnel. Et, pour ce qui est des résultats, enfin, un autre débat pourrait commencer. Il est vrai que nos étudiants ont des niveaux différents disons, de compétences linguistiques et en même temps de ce qu'on peut appeler personal competence or functional competence or any other possible label that could lead us to ce qu'on peut appeler la communication proprement dite. Ah, voilà, je peux continuer.
S'il vous plaît, monsieur.
Pareil des méthodes, parce que...
Non,
mais parce que les groupes témoins, il faudrait qu'il y ait des groupes témoins. Il faudrait qu'il y ait des groupes témoins. Or, je prends l'exemple de Calandrette. Les résultats sont excellents, Diwan est excellent. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que les enfants de ces écoles sont des enfants particuliers, dont les parents sont particulièrement motivés. Donc, avec un investissement familial qui est de base. Donc, n'importe quelle discipline qui est apprise dans un environnement si favorable peut donner de bons résultats. Et donc, dans le cas de la vieille méthode, vous dites que la méthode avait donné des résultats, mais avec des anciens étudiants, mais avec les nouveaux étudiants, ils sont complètement différents. Les étudiants d'aujourd'hui qui sont moins motivés, qui n'acceptent pas les méthodes anciennes d'il y a 40 ans, c'est plus les mêmes. Donc, vous ne pouvez pas comparer les méthodes. Ce qu'il faudrait faire, c'est faire un groupe témoin avec la méthode de madame, faire un groupe témoin avec votre ancienne méthode et voir les résultats avec la vérification que le recrutement des étudiants est le même d'un point de vue sociologique, d'un point de vue culturel et d'un point de vue QI de départ. À ce moment-là, on serait dans la science. Mais là, si on ne fait pas ce groupe-là, on ne peut pas se permettre de juger parce qu'il faut avoir les mêmes étudiants qui sont traités l'un dans l'autre, l'autre dans l'autre, pour voir si ça change quelque chose.
Donc, je parle de la connaissance des langues étrangères, non pas des méthodes. Je dis que malheureusement, avec changement des méthodes, il faut bien prendre en compte que nous sommes deux dans ce processus, c'est-à-dire l'enseignant et l'enseigné, l'étudiant. Donc, il faudra voir ce qu'on peut faire du contraire de ce contrat social, entre guillemets, qui n'est pas signé, mais c'est un contrat, humain, socio-humain entre, et psycho-social entre nous, enseignants, et nos étudiants. Parce que sinon, nous risquons d'avoir des enseignants, des étudiants, des faux débutants, jusqu'à la fin de la vie universitaire. Je parle des futurs économistes que l'on a ici à l'Académie d'études économiques et qui sont censés communiquer dans différentes langues étrangères lors de l'exercice de leur profession. Donc, on a quand même des objectifs très pragmatiques et très professionnalisants. Voilà. Alors, je crois que le débat reste ouvert. On est loin d'avoir répondu aux différentes questions pour le fond et même pour à la surface. Mais de toute façon, ce qui est important, c'est qu'on puisse discuter et qu'on, qu'on puisse comparer et voir comment on pourrait réellement faire des progrès, surtout du côté du professionnalisme de ceux que nous formons. Je vous remercie et j'ai bien l'impression qu'on pourrait faire 10 minutes de pause quand même parce qu'il y a eu 2 tables rondes de suite. Donc 10 minutes de pause, j'ai bien l'impression qu'il y a un café qui nous attend.